Chapitre 9. Les habitudes essentielles des experts en organisation numérique. Les habitudes réduisent la charge cognitive et libèrent de la capacité mentale, ce qui permet de se concentrer sur d'autres tâches. Ce n'est qu'en simplifiant les fondamentaux de la vie que l'on peut créer l'espace mental nécessaire à la libre pensée et à la créativité. James Clear, auteur d'Un rien peut tout changer. Votre second cerveau est un système pragmatique, destiné à rehausser votre productivité et votre créativité. Alors que ces deux domaines sont souvent perçus comme mutuellement exclusifs, l'un étant concret et circonscrit, l'autre abstrait et ouvert, pour moi, ils sont complémentaires. Lorsque nous sommes organisés et efficaces, cela crée un espace qui permet à la créativité de s'épanouir. Quand nous faisons confiance à notre processus créatif, nous n'avons pas besoin d'y réfléchir autant. Ce qui diminue de manière significative le stress d'avoir sans cesse à se demander en arrière-plan si l'on va dans la bonne direction. Cet équilibre entre ordre et créativité est une chose que nous pouvons délibérément mettre en place dans notre second cerveau. Comme n'importe quel autre système, ce dernier a besoin d'être régulièrement entretenu. Votre monde numérique doit être structuré de façon que, lorsque vous y pénétrez pour avancer sur vos projets, vos espaces de travail virtuels soutiennent votre productivité au lieu d'interférer avec elle. Être organisé n'est pas un trait de personnalité inné, ni même une simple question d'applications adéquates ou de bons outils, c'est une habitude. Des actions que l'on enchaîne lorsque l'on trouve, manipule et utilise de l'information. Si nous peinons toujours à retrouver nos notes, nos ébauches, le fruit de nos séances de brainstorming et nos sources, non seulement nous perdons un temps précieux, mais nous brisons aussi notre élan. À chaque étape de la méthode CODE, des habitudes peuvent donc nous aider à nous organiser, de sorte que notre créativité dispose d'assez d'espace pour s'épanouir. La mise en place, une façon d'encourager une productivité durable. Regardez comment les chefs travaillent en cuisine. Ils sont constamment sous pression pour produire à la fois de la quantité et de la qualité. Chaque ingrédient de chaque plat doit tendre vers la perfection. Il suffit d'un accompagnement froid ou d'un filet pas assez cuit pour que l'assiette soit renvoyée, alors qu'au cours d'une soirée animée, des centaines d'assiettes seront servies. Les travailleurs du savoir connaissent eux aussi cette tension fondamentale entre qualité et quantité. Tels des sprinteurs qui se préparent à courir un marathon, nous devons produire un travail de qualité de façon rapide et continue. Afin d'accomplir cet exploit sans cesse renouvelé, les chefs disposent d'une arme très efficace, la mise en place. Développé en France à la fin des années 1800 et utilisé dans le monde entier, ce système par étapes a été conçu pour produire des plats de qualité avec efficacité. Comme les chefs ne peuvent pas se permettre de mettre toute une cuisine à l'arrêt juste pour la nettoyer, ils apprennent à garder leur espace de travail propre et organisé en même temps qu'ils préparent les commandes. En cuisine, cela implique par exemple de toujours remettre un ustensile à sa place de façon à le retrouver immédiatement lors de sa prochaine utilisation, de nettoyer la lame d'un couteau dès que l'on a fini de s'en servir, ou encore de disposer les ingrédients d'un plat selon leur ordre d'utilisation. Pour les chefs, la mise en place, une philosophie et un état d'esprit appliqué à un ensemble de techniques, est l'équivalent d'un cerveau externe. Comme le décrit Dan Charnas dans son livre « Work Clean, The Life-Changing Power of Mise en Place » To organize your life, work and mind. C'est une manière pour eux d'externaliser leurs réflexions et d'automatiser les gestes répétitifs pour pouvoir complètement se concentrer sur la partie créative de l'art culinaire. Les travailleurs du savoir ont beaucoup à apprendre de ce système. Nous aussi, devant faire face à un déluge de tâches dans des conditions incertaines, avec des délais serrés, en utilisant des outils et des ressources pas toujours appropriées. Nous aussi sommes soumis à un barrage constant d'informations et de demandes, disposons de trop peu de temps pour les traiter et sommes continuellement sollicités de toutes parts. Et nous aussi ne sommes en mesure d'assurer la maintenance de notre système qu'au moment même où nous accomplissons notre travail quotidien. Ainsi, n'espérez pas pouvoir tout arrêter pour prendre le temps de réorganiser l'ensemble de votre univers numérique, ni bénéficier de la bienveillance de votre manager face à votre décision de consacrer une journée à tout rattraper. Si vous êtes chef d'entreprise, vous ne tiendrez pas longtemps. Si vous refusez de servir des clients au prétexte que vous procédez à la maintenance de votre système. Mettre le monde sur pause pour reprendre son souffle est compliqué. Aussi, comme nous avons tendance à ne remarquer le besoin de maintenance de notre système que lorsqu'il tombe en panne, nous sommes prompts à imputer ces défaillances à notre manque d'autodiscipline et de productivité. Se construire un second cerveau n'a rien à voir avec le fait de télécharger un logiciel pour améliorer son organisation à un moment donné. Il s'agit bien plutôt d'adopter un système dynamique et flexible, ainsi qu'un ensemble d'habitudes pour pouvoir accéder à ce dont on a besoin au moment choisi sans pour autant mettre son environnement et son esprit sans dessus-dessous. Être discipliné intérieurement ne suffit pas. Nous avons aussi besoin d'une discipline externe, un ensemble de principes et de comportements qui canalisent nos énergies, nos pensées et nos émotions de façon productive et qui structurent le flot d'informations en constante évolution avec lequel nous interagissons au quotidien. Dans ce chapitre, je vais vous présenter trois sortes d'habitudes à intégrer à votre routine pour que votre second cerveau soit fonctionnel et réponde à vos besoins. Chacune d'entre elles pose des limites de temps, d'espace et d'attention qui protègent les états d'esprit que vous souhaitez promouvoir dans votre vie. Ces limites vous permettent de savoir sur quoi vous concentrer et de façon tout aussi importante, quoi ignorer. Ce sont des listes de contrôle pour chaque projet. Assurez-vous de commencer et de terminer vos projets de manière cohérente en vous appuyant sur vos réalisations antérieures. Des revues hebdomadaires et mensuelles. Passez périodiquement en revue votre travail et votre vie et voyez si vous voulez changer quelque chose. Des habitudes opportunistes. Profitez de la moindre occasion pour réviser, surligner ou déplacer des notes afin de les rendre plus faciles à découvrir par votre moi futur. Voyez cela comme les rendez-vous de révision de votre second cerveau. De même que l'huile ou le filtre à air de votre voiture a besoin d'être changé régulièrement, de même, votre second cerveau a besoin d'être révisé pour bien fonctionner. Passons à présent chacune de ces habitudes en revue. Les listes de contrôle d'un projet. La clé pour lancer le volant d'inertie du savoir. À son niveau le plus basique, le travail du savoir consiste à recueillir des informations pour les transformer en résultats. Ainsi, chaque jour, toute la journée, nous consommons et produisons. Pour ce faire, nul besoin de formation et encore moins de second cerveau. Ce qui fait défaut à la plupart des individus, cependant, c'est une façon de recycler le savoir créé pour pouvoir le réutiliser plus tard. Regardez la manière dont les investisseurs considèrent l'argent. Ils ne dépensent pas d'un coup l'intégralité des profits tirés d'un investissement. Ils les réinjectent dans d'autres projets, générant ainsi un volant d'inertie qui permet à leur capital de fructifier. C'est exactement comme cela que vous devez considérer votre investissement dans le recueil et la compilation de connaissances, comme un actif investi générant un bénéfice qui, à son tour, peut être réinvesti dans d'autres projets. C'est ainsi que vos connaissances se développeront et s'accumuleront au fil du temps. Comme quand on investit chaque mois une petite somme en bourse, vous verrez vos connaissances croître de manière exponentielle à mesure que celles-ci se développeront. et que vos idées se connecteront et se nourriront les unes les autres. Si vous regardez bien, il y a deux moments clés dans ce processus de recyclage des connaissances. Deux points où vous avez la possibilité de faire quelque chose de différent de d'habitude. Ces deux moments sont le début et la fin du projet. Je vous parlerai donc d'une part de la liste de contrôle du lancement de projet et d'autre part de la liste de contrôle de clôture du projet. Liste de contrôle numéro 1. Le lancement du projet. Avant de se positionner sur la piste et de décoller, les pilotes de ligne déroulent une checklist de prévol qui leur indique tout ce qu'ils doivent vérifier ou faire. Elle leur permet d'accomplir tous les contrôles nécessaires sans avoir à se reposer sur leur cerveau faillible. Comparez cela à la manière dont la plupart des individus lancent un projet. Ils consultent leurs notes et fichiers existants à la recherche d'informations pertinentes ou pas. Ils discutent avec leurs collègues, de leçons à tirer d'expériences passées ou pas. Ils élaborent un plan pour guider leurs avancées ou pas. Autrement dit, le succès du lancement d'un projet est assez hasardeux. Au chapitre 5, nous avons vu comment, de façon générale, le travail s'organise de plus en plus en mode projet. Chaque objectif, collaboration ou mission que nous entreprenons peut ainsi être défini comme un projet, ce qui lui donne un contour, une direction et un objet précis. Si l'on considère que ces projets accaparent le plus clair de notre attention, structurer leur lancement ne peut être que judicieux. C'est là qu'entre en jeu la liste de contrôle du lancement de projet. Voici par exemple celle que je me suis créée. 1. Coucher par écrit mes réflexions sur le projet. 2. Passer en revue les dossiers ou tags susceptibles de contenir des notes pertinentes ou de renvoyer vers celles-ci. 3. Lancer une recherche dans tous mes dossiers à partir de mots-clés. 4. Transférer les notes pertinentes dans le dossier projet ou les taguer. 5. Créer une esquisse de plan à partir des notes assemblées et planifier le projet. 1. Coucher par écrit mes réflexions sur le projet. J'ai constaté que dès qu'une idée de projet me vient à l'esprit, elle m'inspire. La plupart du temps, immédiatement, des idées et des réflexions. J'aime commencer par noter dans un document vierge ce qui me passe par la tête. C'est le premier que je range dans le dossier dédié au projet. Cette étape peut et même doit être désordonnée. Je déverse là mes réflexions spontanées, mes approches potentielles, les liens vers d'autres idées ou sujets, ou des rappels à discuter avec un tel ou une telle. Voici certaines des questions qui me servent à lancer mon brainstorming. Que sais-je déjà sur ce projet? Qu'est-ce que j'ignore que je dois éclaircir? Quel est mon objectif ou mon intention? Qui pourrait me donner des idées intéressantes sur ce sujet? Que puis-je lire ou écouter pour nourrir ma réflexion? Je note tout ce que m'inspirent ces questions, généralement sous forme de puces, de manière à garder l'information brève et à pouvoir facilement la réorganiser. 2. Passer en revue les dossiers ou tags susceptibles de contenir ou de renvoyer vers des notes pertinentes. En deuxième lieu, je cherche dans mes dossiers existants pour voir si je ne peux pas y trouver des informations pertinentes pour mon nouveau projet, y compris des gabarits, des plans généraux et des rebuts de précédents projets. À ce stade, para et le résumé progressif s'avère particulièrement utile. Je dispose déjà de dossiers variés, chacun renfermant un ensemble de notes structurées et résumées, ce qui me permet de me remémorer leur contenu en un clin d'œil. J'en sélectionne une poignée qui me semble particulièrement appropriée et qui peuvent être aussi bien rangées dans la catégorie projet que domaine, ressources ou archives. Ensuite, je les parcours rapidement, en veillant à conserver mon élan pour ne pas m'enliser ou partir dans des digressions qui m'empêcheraient d'avancer. 3. lancer une recherche à travers tous mes dossiers à partir de mots-clés. Cette troisième étape me permet d'identifier des notes pertinentes à côté desquelles j'ai pu passer. Parfois, je retrouve des idées intéressantes enfouies dans des endroits où je n'aurais pas pensé à regarder. C'est là que l'adoption de la perspective d'un commissaire d'exposition lors de la sauvegarde de mes notes se révèle particulièrement payante. Comme j'ai méticuleusement sélectionné celles entreposées dans mon second cerveau, tout le contenu à ma disposition a de la valeur. Contrairement à Internet qui regorge d'informations superficielles, de publicités distrayantes, de titres trompeurs et de controverses sans intérêt. Je lance une succession de recherches en m'appuyant sur des mots-clés liés à mon nouveau projet et regarde les résultats en diagonale. Quand je repère une note qui me semble intéressante, je l'ouvre et la parcours rapidement, la technique du résumé progressif me permettant de me concentrer uniquement sur l'essentiel de son contenu. 4. Transférer les notes pertinentes dans le dossier projet ou les taguer. Quatrièmement, je transfère toutes les notes trouvées au cours des deux étapes précédentes dans un nouveau dossier dédié au projet que je lance. Selon les fonctionnalités qu'offre votre application, vous pourrez également taguer ou créer des liens vers ces notes afin de ne pas avoir à les déplacer. Peu importe l'endroit où elles sont rangées, ce qui compte, c'est de pouvoir les consulter rapidement tout en restant concentré sur le projet en cours. 5. Créer un archipel à partir des notes rassemblées et planifier le projet. Enfin, il est temps de créer un archipel d'idées à partir du matériau sélectionné. Mon objectif est d'arriver à organiser toutes les idées collectées de façon logique, par étapes, de façon à savoir quoi faire ensuite. Ce en quoi consiste cet archipel dépend de la nature du projet. S'il s'agit d'un document écrit tel qu'un essai ou un rapport, cela pourrait être une série de points clés ou de libellés de rubriques que je souhaite inclure dans la version finale. S'il s'agit des grandes lignes d'un projet collaboratif avec des collègues ou des intervenants externes, l'archipel pourra inclure les objectifs que nous nous proposons d'atteindre et une liste provisoire des responsabilités de chacun. Pour un projet de voyage, cela pourra être une liste de choses à emporter et un itinéraire. Quand vous déroulerez cette liste de contrôle, n'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas en train de réaliser le projet lui-même, mais de mettre sur pied un plan préparatoire à cette réalisation. Cette liste, en 5 points, est une première étape qui ne devrait pas vous prendre plus de 20 ou 30 minutes. À ce stade, vous cherchez uniquement à vous faire une idée du matériau déjà à votre disposition dans votre second cerveau. Une fois que vous aurez les idées claires sur ce point, vous aurez une bien meilleure vision du temps qu'il vous faudra pour réaliser votre projet, des connaissances ou des ressources dont vous aurez besoin et des obstacles à surmonter. Je vous encourage à utiliser ma liste de contrôle du lancement de projet au départ et de l'adapter à vos besoins au fil du temps. Selon votre métier ou votre industrie, il vous faudra être plus ou moins formel, vous devrez consacrer plus ou moins de temps à cette étape et impliquer un nombre plus ou moins élevé d'individus. Voici d'autres options d'action que vous pourriez inclure dans votre version. Planifier un prémortem. Que souhaitez-vous apprendre? Quelle est la plus grande source d'incertitude ou la question majeure à laquelle vous voulez répondre? Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'échouer? Communiquez avec les parties prenantes. Expliquez à votre responsable, vos collègues, vos clients, vos actionnaires, vos sous-traitants, etc. en quoi consiste le projet et pourquoi il est important. Définir les critères de réussite. Qu'est-ce qui fait que ce projet pourra être considéré comme une réussite? Quels sont les résultats minimaux ou les objectifs élargis à atteindre? Organiser un coup d'envoi officiel pour planifier des points téléphoniques à intervalles réguliers. Établir un budget et un calendrier et rédiger les buts et objectifs afin de s'assurer que chacun est informé et au clair sur ce qui est attendu de lui ou d'elle. Même s'il s'agit d'un projet solo, lui donner un coup d'envoi officiel sera toujours utile.